chapitre 3 de 1 Timothée. On est dans cette étude de cette première lettre de Paul à Timothée. Timothée, c'était un jeune pasteur qui avait besoin d'encouragement pour persévérer dans l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Et on voit à travers les encouragements et les conseils que Paul lui envoie par courrier, des principes qui s'appliquent à toute église chrétienne à travers les siècles. On a déjà dit qu'il y avait un verset clé dans ce passage qui était le verset 15 du chapitre 3 où Paul indique à Timothée comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, c'est une lettre qui donne des conseils à un pasteur, mais c'est aussi une lettre qui donne des conseils à tous les chrétiens, comment nous devons nous comporter, comment les choses doivent être gérées dans l'Église. Il a commencé par mettre en garde l'Église et le jeune pasteur, des dangers de la fausse doctrine. Et ça, c'est plus que jamais d'actualité. La fausse doctrine, c'est ce qui n'est pas vraiment biblique. Ce qui compte, c'est pas ce que je vous dis, c'est ce qui est dit dans la parole. Et contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, les Bibles disent toutes la même chose. Peut-être avec quelques variations de style. Le langage évolue, il faut remettre un peu au goût du jour certains termes. Mais pour la 99% des données, c'est la même chose. Les musulmans aiment bien dire que la Bible a été falsifiée, mais si vous leur demandez de vous dire où, et souvent ils sont incapables de dire. Et une bonne remarque à leur faire, c'est que si Dieu a donné la Bible au départ comme vraiment étant sa parole, et puis admettre que les hommes ont pu falsifier la parole par la suite, ça revient à dire que Dieu n'est pas assez puissant pour garder sa parole. Et lorsqu'ils vous disent que la Bible a été falsifiée, si vous sortez cet argument, ils n'ont pas de réponse. Soit Dieu est impuissant, soit Dieu est puissant et il ne va pas laisser sa parole être déformée. Et c'est un argument fort et que vous devez connaître, pas pour gagner des disputes, mais pour répondre à cette accusation qui est totalement injustifiée. Ensuite, il a rappelé l'importance de la prière. Il exhorte en tout premier lieu dans l'église, une église ça doit être maison de prière. Il doit y avoir des gens qui prient. Des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous, pour tous les hommes, aussi bien les hommes en position d'autorité, les rois, les gouvernants. Et puis, nous avons vu le rôle des femmes dans l'Église. Nous avons vu que elles sont appelées à se parer d'œuvres bonnes, qu'elles ne sont pas appelées à être pasteurs ou anciens dans l'Église. Même si ça, c'est quelque chose qui est vu dans certains groupes ou dans certains milieux comme étant un reste de machisme antique. Encore une fois, si on regarde ce que la Bible nous dit, et aujourd'hui on va le voir, le responsable, le pasteur, le répondant doit être le mari d'une seule femme. Ça devrait être un argument assez fort pour que on n'ordonne pas des femmes comme pasteurs. On a souligné que si elles ne peuvent pas obtenir le rôle de responsable de l'enseignement dans une église, en tant que pasteur ou ancien, elles sont appelées cependant à des tas de responsabilités dans l'église. Et on a rappelé que ça s'applique à l'Église, non pas à d'autres domaines, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la politique. On ne peut pas utiliser ces versets pour dire qu'une femme ne peut pas être directrice du FMI, par exemple. Voilà, nous arrivons maintenant à un passage dans lequel il décrit les qualifications, les caractéristiques ou les choses requises de quelqu'un qui aspire, grosso modo, à la responsabilité de pasteur, de responsable, d'ancien. Et on va lire ensemble, si vous le voulez bien, les versets 1 à 7. Je lis dans la version à la colombe. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Qu'il ne soit pas à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Nous allons commenter ces versets tout d'abord. Cette version parle du titre du mot d'évêque. Et pour ceux qui en arrière-plan avec l'Église catholique, le mot évêque est chargé d'images. On voit quelqu'un qui a un beau chapeau sur la tête, je crois que ça s'appelle une mitre, qui a des vêtements, des chasubles de toute beauté, en velours avec des fils d'or, qui a une grosse bague que l'on peut, sur laquelle on peut déposer un chaste baiser. Il peut avoir aussi un bâton. Je sais plus le nom. Comment ça s'appelle le bâton de l'évêque? Une crosse, merci. Une crosse d'évêque, comme d'un berger. Et en fait, c'était quelque chose de si typé pour moi que j'utilisais, je sais pas si ça, c'était en Corse, mais pour dire que quelque chose était peu probable, on pouvait dire, je ferai ceci, tu feras ceci lorsque je serai évêque. Un peu comme dire, toi tu réussiras quand moi je serai champion olympique. Et j'ai toujours, Dieu merci, une sœur qui a 7 ans de plus que moi. J'avais une jeune sœur qui, elle, est décédée, qui avait 2 ans et demi de moins que moi. Et il y avait une complicité entre ma jeune sœur et moi-même contre ma sœur aînée. Et on n'avait pas beaucoup de pitié avec elle. On lui avait fait croire qu'en fait elle avait été adoptée. On était vraiment méchants avec elle. Elle nous a pardonné, heureusement. Et elle s'est mariée assez tardivement dans la vie. Je crois qu'elle avait 36 ans ou plus, quelques années de plus. Et on lui disait qu'en fait, le jour où elle allait, je lui disais, le jour où tu te marieras, moi je serai évêque. Dans l'idée que ça t'arrivera jamais, ce qui était cruel de dire ça à une jeune femme. Et lorsqu'on voit le vrai sens du mot évêque, c'est quelqu'un qui, ça vient du latin ou du grec, épiscopos. Le palais de l'évêque, c'est le palais épiscopal. Ça veut dire épi, c'est au-dessus. Scope, c'est voir. Comme il y a un périscope qui permet de voir au périmètre dans un sous-marin, il y a un endoscope qui va à l'intérieur de vos intestins ou de votre estomac. L'épiscope, c'est celui qui veille, qui voit au-dessus. Donc c'est celui qui surveille, c'est celui qui est responsable. Et c'est un terme qui est utilisé dans la Bible avec de façon un peu interchangeable avec le mot d'ancien, qui lui vient du mot vieux, presbytéros, presbytère, presbyte, la maladie de ceux qui ont de l'âge, la maladie des yeux où ils voient plus très bien. Évêque, pasteur, ancien. Pasteur, c'est le mot qui veut dire être berger. Ça désigne la même fonction de responsabilité dans l'Église. Et tout de suite, Paul encourage Timothée et ceux qui auraient cet appel en disant « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. » Aspirer, qui est des fois traduit par « désir », c'est en fait tendre vers quelque chose. C'est un peu comme un animal à qui vous donnez de la nourriture, il va tendre son cou pour attraper cette nourriture. Vous aspirez, vous avez envie, vous tendez vers quelque chose. Et il dit, si vous avez cette aspiration, ce désir, en fait, vous êtes passionné par une activité qui est belle. Et tout de suite, je vais vous faire remarquer une chose. Il n'est pas question de titre, il est question de travail, d'activité. La Bible je me suis donc retrouvé quelque part après des années sans jamais l'avoir recherché par ambition personnelle à être pasteur. Donc en quelque sorte, je suis évêque. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ma sœur est mariée depuis un bon moment. Donc Dieu a le sens de l'humour et ces plaisanteries que j'adressais à ma sœur, en fait, il s'est appliqué à la réaliser. Elle est mariée, je suis évêque. Alors je porte pas, je vous rassure, de mitre, de crosse ou de grosses bagues à embrasser chastement. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les responsabilités qui sont attachées à ces rôles. Dans Éphésiens, il est question des dons que Dieu a fait à l'Église, dans Éphésiens 4. Et il parle des pasteurs-docteurs, par des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des pasteurs-docteurs. Là aussi, c'est intéressant parce que si on ne revient pas à l'original, à la langue originale qui était le grec commun de l'époque, on voit des fois des commentaires qui sont erronés parce que ils disent il y a des pasteurs et puis il y a des docteurs, comme s'il y avait deux rôles séparés. Mais pour les spécialistes du grec, il y a la règle de Granville Sharp, c'est le nom du grammairien expert du 19e siècle qui a, à travers ses recherches, qui a dit que la construction sans l'article répété deux fois montre que c'est une seule fonction. Donc, enseignant doit être pasteur et pasteur doit être enseignant. Alors c'est vrai que maintenant on parle des docteurs comme des spécialistes qui font des commentaires sur la parole de Dieu. Parmi nous à Nice, on a Francis Bellet qui n'est plus officiellement pasteur, qui écrit des livres. Il vient d'en sortir un qui est disponible au dépôt-vente sur l'Apocalypse. Un très bon livre que je recommande. Et on dit ça c'est un docteur. Et on sépare les deux. Mais Francis est avant tout un pasteur. Il a vécu comme pasteur. Et de penser qu'on peut être l'un sans être l'autre, c'est n'avoir rien compris à ce que dit la Bible. Et Ce qui est important, c'est d'être les deux à la fois. Si vous êtes juste pasteur, vous aimez bien vous occuper des gens, mais vous ne savez pas leur apprendre, leur inculquer la parole, alors ils ne vont pas recevoir de nourriture solide qui vont leur permettre de grandir et d'être bien. Si vous êtes seulement docteur et que vous ne vous occupez pas, si vous n'avez pas à cœur la bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle des brebis, alors vous ne satisfaisez pas aux fonctions, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu qui doit être à la fois un rôle de pasteur et d'enseignant. Et dans Jacques 3, il nous met en garde. Ça, c'est un des versets que j'aimerais bien ne pas voir dans la Bible. Page 260 dans la Bible à la Colombe. « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, donc enseigner la parole, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. » Effectivement, c'est logique, si on se pose en enseignant, si on enseigne la parole et que on ne respecte pas la parole, on n'a pas d'excuse. C'est un peu comme les policiers qui trichent ou qui font des crimes, qui se livrent à des crimes. On trouve tout à fait normal qu'ils soient punis avec la plus extrême sévérité. Donc ça, c'est un premier passage qui est difficile à recevoir lorsqu'on se trouve dans cette position d'enseignant. Un autre passage qui est délicat ou qui nous montre les conséquences et le sérieux de ce rôle de conducteur, d'ancien, de pasteur, d'évêque, c'est au chapitre 13 de la lettre aux Hébreux où l'auteur exhorte l'assemblée à obéir aux responsables. Verset 17 du chapitre 13 dans Hébreux, page 257 dans la Bible à la Colombe. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Le pasteur, le responsable, les anciens ont des comptes à rendre pour les âmes des personnes qui composent l'assemblée. Donc avec ces remarques comme introduction, on va voir quels sont les traits qui doivent se trouver dans la personne qui cherche ou qui aspire à être responsable, à être pasteur, à être ancien, à être évêque. Là, encore une fois, il n'est pas question du type de gouvernement de l'Église. Vous savez que en France, par exemple, les églises sont des associations de la loi de 1905, souvent accompagnées d'une association de 1905. Ça, c'est pour les exigences de la loi française. Maintenant, à l'intérieur de l'Église, le gouvernement, la façon dont l'Église est gérée, il y a plusieurs façons. Il y a la façon, ce qu'on appelle la façon épiscopale, où il y a un responsable, ça c'est pas encore un responsable régional comme dans l'Église catholique, où il y a un évêque qui supervise différentes églises, c'est simplement la primauté d'une personne. Il y a des systèmes congrégationalistes, où là c'est l'assemblée qui gère tout par vote. C'est très démocratique au sens politique, mais c'est pas nécessairement biblique. On va en faire la remarque au cours de ces descriptions. Une autre forme de gouvernement, c'est ce qu'on appelle le gouvernement presbytéral. Et là, c'est pas presbytéral au sens des églises presbytériennes, qui est une dénomination. C'est simplement au niveau au niveau de la gestion de l'église par des anciens. C'est un peu ce qu'on trouve dans les églises de frères, où souvent même dans ces églises de frères, en fait, il y a un frère parmi les autres qui joue le rôle d'évêque, de responsable personnel. Il n'est pas du tout question de savoir dans ces passages quelle est la meilleure forme de gouvernement pour l'église. Jésus, Dieu, nous laisse la liberté dans ces domaines. Les caractéristiques qui sont décrites, vous allez voir qu'en fait, c'est pas des choses qu'on mettrait dans un CV, dans un résumé, comme on dit en anglais, dans un curriculum vitae, le mot latin. C'est pas des expériences ou des diplômes dont on peut se revendiquer. C'est pas des aspects souvent que recherchent les personnes des ressources humaines. Ils veulent savoir si vous êtes brillant, si vous êtes charismatique, si vous êtes bardé de diplômes, si vous avez permis à une entreprise de multiplier ses bénéfices par 10 en l'espace de 2 ans. Non, on va voir que les caractéristiques qui sont décrites ici ont trait au caractère. Et en résumé, que ce soit aussi bien pour les responsables, donc on va dire les pasteurs en gros, ou les anciens. Puis plus loin, on va parler des diacres et puis même des diaconesses, c'est-à-dire les gens qui ont un service reconnu dans l'Église. Ce qui compte, c'est pas les diplômes, c'est pas l'aspect, l'intelligence. Ce qui compte, c'est le caractère de la personne. Il faut que ce caractère soit un caractère plaisant à Dieu. Et donc, on va passer en revue quelques-unes de ces caractéristiques dans ces 7 premiers versets. Encore une fois, Paul dit que c'est une belle activité. C'est pas la seule activité. Il y a plein d'autres rôles dans l'Église ou même dans la vie en général où on peut être un chrétien épanoui qui rend honneur et qui fait gloire à Dieu. Je veux souligner tout de suite que ces caractéristiques, ces qualités, c'est à rechercher et à cultiver par tous les chrétiens. C'est pas seulement si on veut occuper un poste de responsable dans l'Église. Faut pas vous dire, tiens, bon, ben moi je veux pas, j'ai aucun intérêt d'être pasteur, d'être ancien, donc j'ai pas besoin de respecter ces recommandations, ces exhortations. Je peux boire, je peux me battre. On va voir un peu les différents points. Et encore une fois, c'est une activité, c'est une belle activité. Il ne s'agit pas de rechercher un titre. Et souvent, l'homme étant par nature pécheur, nous étant tous pécheurs, moi le premier, comme dit Paul, il était le pire des pécheurs. C'est bien d'avoir cette vision réaliste des choses. On est le pire parce qu'on connaît tous nos péchés, on ne connaît pas tous ceux des autres. Au moins une grande partie. Il y a des péchés encore qu'on ne voit même pas, pour lesquels on peut demander pardon à Dieu. Mais si vous recherchez un titre, alors vous faites fausse route. Parce que votre motivation, elle doit être de servir, elle doit être de glorifier Dieu. Et après, c'est lui qui va vous appeler, c'est lui qui va mettre ces circonstances ou ces circonstances, oui, qui vont faire que vous allez être appelé. Et on y reviendra après avoir vu les caractéristiques des diacres. Comment savoir si on est appelé? Mais, et dans la Bible, on le voit souvent, les personnes que Dieu appelle, leur première réaction, c'est quoi? C'est dire, Seigneur, tu fais erreur. Si vous avez l'attitude de dire, ah Seigneur, enfin tu m'appelles, je savais que tu allais le faire, j'ai tellement de qualités à te offrir, alors en général, c'est pas bon. Et avant de donner des titres, il est bon dans l'Église qu'on laisse les gens faire leurs preuves. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent « Pierre m'a pas encore donné officiellement le titre d'ancien. » Ne soyez pas impatients. C'est plus important de se comporter, d'avoir le rôle d'ancien, de prier, de donner des conseils aux responsables, d'influencer sur la vie de l'Église par de la sagesse qui vient de Dieu, plutôt que d'avoir une petite étiquette qui dit « ancien machin chouette ». C'est le mot, justement, l'étiquette qu'on trouve chez les mormons. Si vous avez remarqué, dans la rue, ils vont deux par deux, c'est pas des amoureux, mais ils vont deux par deux en référence à l'enseignement biblique, c'est une bonne chose. Mais ils ont deux petites étiquettes et il y a marqué « Elder John ». Elder, ce qui veut dire « ancien ». Ils ont le titre qu'ils mettent en avant. Ce qui compte, c'est bien plus de faire l'œuvre que de rechercher le titre. Et j'ai vu dans mon expérience de chrétien des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'étaient pas considérés, pas dans notre Église, mais avant, aux États-Unis notamment, des gens quittaient l'Église parce qu'ils n'étaient pas retenus comme pasteurs lorsqu'il y avait des pasteurs qui devaient être nommés. Ils estimaient que eux avaient les qualités, les qualifications. Ils n'admettaient pas que le pasteur responsable ne les ait pas nommés. Et mon pasteur Wayne disait toujours leur attitude est bien la preuve que leur motivation n'était pas la bonne. Il ne s'agit pas de rechercher les honneurs, il s'agit de chercher à faire l'œuvre de Dieu d'une façon qui plaît à Dieu, qui n'attire pas l'attention sur nous-mêmes, mais qui porte toute l'attention sur Dieu, son œuvre, sur le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. Verset 2, on y arrive. Il faut donc que l'évêque, le pasteur, le responsable, l'ancien, soit irréprochable. Ça veut dire que on puisse pas se saisir de lui pour dire du mal de lui. Et ça fait tout de suite penser, par exemple, à des personnages bibliques comme Daniel, où on n'arrivait pas à lui reprocher quoi que ce soit, parce que son attitude était toujours pleine du désir de plaire à Dieu. Et ça doit être notre attitude. On doit être irréprochable, au-dessus de tout soupçon. On ne doit pas donner prise aux attaques contre la personne qui se répercuterait sur l'Église et encore plus grave, sur Jésus-Christ lui-même. Si on est pris en flagrant délit de détournement de fonds, d'adultère, c'est toute l'Église qui en souffre et aussi le nom de Dieu. On ne doit jamais donner l'occasion aux ennemis de pouvoir critiquer sur des points valables. On doit être au-dessus de tout soupçon. On doit être le mari d'une seule femme. Alors, il y en a qui se disent « Ah ben, si je suis célibataire, je ne peux pas être pasteur. » Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que vous êtes fidèle dans votre relation avec votre femme. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas vous remarier suite à un décès. Ça tendrait à... Et là encore, je ne veux pas être dogmatique, mais à faire que quelqu'un qui a divorcé ne soit pas en état de prendre la responsabilité d'une église. Je crois que c'est à voir au cas par cas, en fonction des circonstances du divorce, parce que la Bible donne des raisons valables de divorcer s'il y a immoralité sexuelle de la part de l'autre, donc dans ce cas-là de l'épouse. Ça pourrait être la base d'un divorce que Dieu accepte, mais encore une fois... Dieu accepte ces divorces, sa possibilité, seulement parce qu'il connaît la dureté de notre cœur. Et tant qu'à faire, si on est divorcé, je crois qu'il est mieux de ne pas chercher à être responsable d'une église. Et j'ai vu là aussi des personnes qui ont été... Je connaissais un ancien qui... après avoir étudié ce passage, a préféré renoncer à sa fonction d'ancien pour ne pas être une source de chute pour certains. Dire « mais lui, il est divorcé et il est responsable dans l'église, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que moi aussi, finalement, si je divorce, c'est pas si grave. C'est avoir une affection de fidélité, si on est marié, qui dure jusqu'à la mort de l'épouse. Mari d'une seule femme, il doit être l'homme d'une seule femme. Il doit être sobre. Sobre, c'est dans l'idée qu'il n'est pas... On va revenir à la sobriété telle qu'on l'entend par rapport à l'alcool un peu plus loin. Mais sobre, ça veut dire qu'il n'est pas versé sur les extrêmes. C'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui n'a pas des décisions, des pensées qui vont varier du tout au tout, qui va être constant dans un équilibre. Il doit être aussi sensé. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir penser clairement. C'est quelqu'un qui est... clair dans ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours en train de blaguer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'humour et avoir de l'humour, mais on doit pouvoir traiter de sujets sérieux sérieusement. Il doit être aussi sociable. Sociable, c'est l'idée, si je ne me trompe pas, c'est le mot qui nous donne le mot cosmique. Le pasteur doit être cosmique. Pas comique, mais cosmique. Le mot, en fait, dans le grec, ça veut dire, c'est l'opposé du chaos, ça veut dire l'ordre. Le cosmos, c'est la création qui est ordonnée. Il y a un ordre. Il doit être... Il doit y avoir de l'ordre dans sa vie. Si tout est en désordre, peut-être qu'il n'est pas appelé à occuper ce rôle de responsable. Il doit être ensuite hospitalier. C'est le mot qui veut dire philoxénia, celui qui aime les étrangers. Il doit être aussi montrer cet amour pour l'étranger en ouvrant sa maison, il doit être hospitalier, il doit aimer être avec les gens. Et ça rejoint cette description du pasteur qui doit être à la fois un pasteur et un enseignant. Il y a des gens qui aiment bien enseigner. Ils aiment étudier le grec, l'hébreu. Aujourd'hui, on dispose avec Internet et l'informatique de ressources qui auraient rendu jaloux les plus grands experts de ces langues anciennes d'il y a un siècle. Et on peut vraiment se perdre dans les études. Et souvent, on a des gens qui aiment enseigner, mais qui, après l'enseignement, rentrent chez eux pour étudier. Et ils ne s'intéressent pas vraiment aux gens. Il y a quelques années, on avait un jeune homme prometteur qui adorait la parole, qui adorait avoir des occasions pour l'enseigner, mais qui trouvait que les chrétiens dans l'Église n'étaient pas assez spirituels. Et il pouvait parler avec eux que du foot, du match de l'après-midi, du dernier film. On lui parlait plutôt de ces choses. Et ça le décevait au point qu'il n'avait plus d'intérêt. Et dès le culte fini, il repartait chez lui. Et je l'avais repris, je lui avais dit, écoute, si tu veux être pasteur, tu dois être prêt à prendre les gens là où ils sont. Et si pour l'instant, ils s'intéressent plus au foot qu'à parler avec toi du sermon du matin, c'est pas grave. Tu dois les aimer, leur montrer l'amour de Dieu et les encourager à progresser dans la foi. Ça lui avait pas plu. Il avait quitté l'Église et je crois qu'il fait des progrès dans ce domaine. Mais des enseignants, il y en a plein, des gens qui sont prêts intellectuellement à se passionner pour l'étude du grec, de l'hébreu, à montrer leurs connaissances en disant que hospitalier, c'est philoxenia, du verbe philéo et du mot xénos, aime l'étranger, hospitalier. Alors je le fais des fois, mais j'essaye de ne pas attirer l'attention sur les langues anciennes, autant que faire se peut. Là, on est dans des descriptions qui sont très proches les unes des autres. Des fois, ça aide. Mais quelqu'un disait que votre connaissance du grec ou de l'hébreu, ça doit être comme votre caleçon. Le moins on le voit et le mieux c'est pour tout le monde. Il faut avoir à cœur les gens. Il faut avoir de l'amour pour les brebis. Et très tôt dans mon ministère, entre guillemets, le Seigneur m'a repris et j'ai dû m'en excuser ou demander pardon publiquement. C'était au début de mon ministère à Nice et j'aimais bien garder le samedi pour étudier. Et je regardais le grec, je regardais l'hébreu avec des ouvrages qui aident à le faire. Et j'étais vraiment pris dans mon étude, ça allait bien. Et sur le coup des 4 heures, je reçois un appel d'une maman. À l'époque, elle avait son fils était tout petit. Elle me dit, Pierre, je suis désolé de t'importuner, mais est-ce qu'il te serait possible de venir me chercher à Carrefour? J'ai pas fait attention, j'ai fait des courses et puis je m'aperçois que j'ai trop de commissions, je vais pas pouvoir prendre le bus. Et à ma grande honte, je dois dire que je lui ai dit, écoute, je vais te donner le numéro de téléphone de, je sais plus qui c'était, mais une autre personne qui avait une voiture parce que tu vois, moi je suis en plein dans mon étude, je peux pas venir t'aider. Et après avoir raccroché, le Seigneur s'est assuré que je n'avais plus la paix pour étudier. J'aurais mieux fait d'aller lui rendre ce service. Être un pasteur au lieu de vouloir seulement être un enseignant. Et donc, on doit être hospitalier, et c'est remarquable parce que si vous voyez, ça vient avant la capacité d'enseigner. C'est très important d'enseigner, mais ici, ça vient pas tout de suite en premier. On doit d'abord être irréprochable. Alors, évitez si... de m'appeler samedi prochain, mais si vous avez vraiment besoin d'aide, vous savez que maintenant je suis plus sensible à ce genre d'interruption. Et encore une fois, c'est avec honte que je confesse publiquement que je préférais étudier que d'aller aider une maman qui avait besoin de moi. Et le Seigneur s'est assuré que ça, c'est une leçon qui m'est restée maintenant. Il doit être apte à l'enseignement. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il doit être enseigné tous les dimanches ou une fois par mois. Mais que si on lui demande, et il y en a plusieurs parmi nous qui sont capables d'enseigner, ce sont eux qui font la fonction d'anciens. Et je compte sur eux et je les apprécie. Ça peut être ceux qui sont capables d'enseigner aux enfants, ceux qui sont capables de partager un texte et d'en tirer quelques leçons. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas la première chose. On sait que Dieu, dans Éphésiens 4, nous dit qu'il a donné à l'Église des gens qui ont la capacité de s'occuper des gens et d'enseigner la parole. Mais l'évêque, le pasteur ou les anciens, il faut qu'ils aient cette capacité, mais c'est pas la première chose qu'on va regarder sur un CV. Il ne doit pas être adonné au vin. Ça, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de vin. Aux États-Unis, on a tendance à dire qu'un pasteur ne doit pas toucher à l'alcool, ne doit pas toucher au vin. Dans notre pays de tradition de vignoble, c'est quelque chose qui est moins strict. Paul va donner comme conseil à Timothée de boire un peu de vin. Donc on sait que c'est pas une règle stricte où on ne peut pas boire un peu de vin. Mais être adonné au vin et être alcoolique, c'est autre chose que de pouvoir boire un verre de vin de temps en temps à l'occasion d'un repas. Et si vous avez la moindre difficulté dans ce domaine, à ce moment-là, tenez-vous à la règle que vos lèvres ne touchent pas de vin, d'alcool. Car on sait que l'alcool va troubler le jugement s'il est pris en trop grande quantité. Il va pouvoir vous rendre violent. Il ne faut pas être adonné au vin parce qu'il ne faut pas être violent. C'est une des caractéristiques. Si vous voulez être pasteur ou ancien, vous devez avoir un esprit de paix. Si vous êtes toujours à vous disputer avec les gens, et ça c'est souvent les caractéristiques des jeunes qui sortent des écoles bibliques, où il y a une émulation, où on est prêt à aller se faire martyr, mourir pour sa foi, et c'est souvent un don, le don de martyr qu'ils trouvent avant de... Ils sont prêts à être martyrs, mais ils sont pas prêts à avoir le don de célibat. Autrement dit, ils veulent bien mourir pour Dieu, mais une fois qu'ils seront mariés. Et ils sont prêts à se battre avec tous ceux qui sont pas d'accord avec eux. C'est le pasteur Spurgeon, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, qui dans ses études faites pour ses jeunes élèves, disait « Ne soyez pas comme ces gens qui sont toujours prêts à se battre avec leurs poings et qui gardent dans leur poche le revolver de la doctrine. » Il y en a qui sont prêts à dire « Quoi ? Tu crois ça, toi ? Oh, je vais te montrer que c'est pas bon. » Ça veut pas dire qu'on n'a pas des opinions argumenter sur tous les points qui peuvent survenir dans une discussion, mais on fait ça avec douceur et gentillesse, avec un grain de sel et douceur. Il est dit par ailleurs, il faut être conciliant. C'est cette idée d'attirer les gens comme Jésus le faisait. Il n'était pas là pour se battre. Il s'est battu avec dans les occasions où il y avait des marchands dans le temple qui avaient transformé la maison de Dieu qui devait être une maison de prière en un temple de mammon, un lieu de commerce. Mais il était toujours prêt à être conciliant s'il sentait qu'il y avait une honnêteté intellectuelle. Il y avait de la colère contre les hypocrites, contre les pharisiens et contre ceux qui avaient utilisé la religion à des fins d'enrichissement personnel. Il doit être conciliant, il doit être pacifique. Encore une fois, on ne cherche pas à la bagarre avec tout le monde. Il doit être désintéressé, fin du verset 3. Désintéressé non seulement au niveau de l'argent, il va en reparler, mais encore une fois, votre but, ça ne doit pas être d'être sur le devant de la scène, ça ne doit pas être la réputation, ça ne doit pas être la célébrité. Il y a plein de motivations qui peuvent être de mauvaises motivations et vous devez être désintéressé dans votre service et dans vos appels. Verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Ça, c'est l'avantage du pasteur qui est célibataire, c'est qu'il n'est pas soumis à ce test. Et bien souvent, lorsqu'on est papa et qu'on se sent appelé à un poste de responsable, que ce soit comme pasteur ou comme ancien, c'est fou le nombre de fois où ces versets viennent devant votre tête, dans votre mémoire. Vos enfants vous répondent, vos enfants font des bêtises et vous dites « Ah zut, peut-être que je ne suis pas appelé à ce que je fais ». Vous devez laisser vos enfants être des enfants. Souvent, les enfants de pasteurs ont une pression accrue parce que l'assemblée peut les regarder et dès qu'ils font une bêtise, on sent le jugement sur ses enfants et sur le pasteur qui ne tient pas ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Encore une fois, c'est à prendre comme le désir de votre cœur, la façon dont vous vivez. Est-ce que vous négligez vos enfants? Souvent, pour avoir remporté des victoires dans le ministère, on peut être prêt à négliger nos enfants. Les enfants sont les premiers à vous faire des reproches. Et vous qui êtes parents de jeunes enfants, vous qui êtes peut-être responsable dans l'église, qui avez des enfants, accordez-leur pas la première place parce qu'elle revient à Dieu. Ensuite, c'est votre femme. Mais ne les négligez pas, ne les placez pas avant l'assemblée. Et par la force des choses, notamment parce qu'en France, les matchs de foot ont lieu, les tournois ont lieu le dimanche matin. J'ai eu des reproches de mes enfants que c'était Nancy qui devait les emmener au match. Et quelque part, j'aurais pu gérer les choses de mieux en demandant à quelqu'un, à un pasteur d'une autre église, quand c'était le début, pour pouvoir leur accorder l'intérêt, l'attention qui montre l'amour. Et donc, c'est une grande responsabilité. Et plus loin, il est dit, verset 5, « Si on ne sait pas diriger sa propre maison, comment est-ce qu'on peut espérer prendre soin de l'Église de Dieu ?» Et ça veut dire aussi que pour tous les pères, vous devez prendre soin de votre maison, de votre famille, comme si vous étiez pasteur au service d'une Église. Vous êtes en quelque sorte le responsable spirituel de votre famille, le pasteur de votre propre famille. Et encore une fois, toutes ces caractéristiques que l'on lit ce matin, elles s'appliquent à tous les hommes qui ont des responsabilités familiales ou même les célibataires qui veulent plaire à Dieu. qu'ils ne soient pas nouveaux convertis, verset 6, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Là aussi, il doit y avoir une maturité qui est acquise par l'expérience. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le zèle qui font de vous un pasteur. Il doit y avoir une expérience, et justement ces jeunes qui sortent des écoles bibliques, ils pensent que parce qu'ils ont le diplôme, qu'ils ont préparé 2 ans ou 4 ans un diplôme, ils sont automatiquement appelés à être responsables dans l'Église. Non, la formation peut être un bon complément, peut être un encouragement, mais on verra qu'il doit, à la base, il doit y avoir un appel. L'appel, c'est-à-dire qu'au début, jamais vous auriez eu l'ambition ou le désir de remplir une telle fonction, mais les circonstances font que vous sentez en vous cet appel qui vous semble venir de Dieu. On y reviendra parce que c'est très important. Et le danger d'un nouveau converti, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la Bible, dans la vie chrétienne, c'est le danger qu'il se retrouve responsable et qu'il en retire de l'orgueil, qu'il soit une occasion de chute. Et je crois que Dieu nous donne rapidement des leçons dans ce domaine. Si on est orgueilleux dans le ministère, il a plein de façons de nous le montrer, qu'en fait, si c'est pas lui qui fait l'œuvre, si c'est pas lui qui construit la maison, l'ouvrier travaille en vain. Et le danger, c'est que le diable puisse utiliser cet orgueil lui-même et chuter suite à son orgueil de vouloir se faire l'égal de Dieu. Le diable peut utiliser cet orgueil si on a des responsabilités avant d'avoir la responsabilité, d'avoir exercé ces responsabilités sans les titres, sans le nom de responsable ou d'ancien. Finalement, le verset 7, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Ça veut dire qu'en dehors de l'Église, les voisins, votre entourage, même les non-chrétiens, doivent pouvoir vous respecter, doivent pouvoir apprécier vos qualités d'homme, vos qualités d'honnêteté, de responsabilité. Sinon, on dit « off ». Et malheureusement, lorsqu'il y a des scandales dans l'Église, on voit ce que c'est dans le domaine politique, les scandales qui rejaillissent sur toute la classe politique, qui suscitent de nouvelles dénonciations, qui ont un cercle vicieux qui se met en place où plus personne ne veut croire aux hommes politiques qui seraient des serviteurs de l'État. Encore pire dans le domaine chrétien, lorsque des pasteurs tombent victimes de scandales sexuels, et malheureusement c'est relativement assez fréquent, parce que ils ne se gardent pas, ils ne s'entourent pas de précautions, ils laissent leur orgueil, leur chair prendre le dessus. Et lorsqu'un pasteur, un télévangéliste tombe sous le coup d'un scandale, non seulement il est discrédité, mais c'est souvent l'Église et le nom de Jésus qui est discrédité. Et ça, c'est terrible parce qu'on porte une responsabilité qui fait que, comme disait Jacques, ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, des enseignants. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On verra que la suite, pour ceux qui sont des diacres, des serviteurs dans l'Église, avec de façon un peu reconnue ou habituelle, les mêmes caractéristiques se retrouvent. Et ça nous montre qu'en fait, ces caractéristiques, elles sont valables pour tous ceux qui aspirent à honorer, à glorifier Dieu. Et ça, c'est un passage, je suis vraiment heureux qu'on puisse étudier ça en ce moment. Je sais qu'il y en a parmi vous, nombreuses personnes, qui se demandent comment servir Dieu, comment savoir si on est appelé. Et on va voir dans les versets et chapitres suivants que ces conseils à Timothée, ils répondent à beaucoup de nos questions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la source de la sagesse, Seigneur. Qu'en elle, tu nous donnes les consignes pour savoir comment l'Église doit fonctionner. Cette Église que souvent nous critiquons, nous trouvons pleine de problèmes. Seigneur, c'est ton épouse et tu l'aimes et tu veux qu'elle te soit présentée sans tache ni ride. Seigneur, utilise ces enseignements, utilise ces versets, ces paroles de l'apôtre Paul pour nous faire grandir dans notre compréhension du ministère, des ministères, Seigneur, pour que tu puisses être glorifié dans le nom de Jésus. Amen.